Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Qui a donc infecté deux personnes atteintes du coronavirus dans l'Oise, au nord de Paris? L'une est morte hier, l'autre est en soins intensifs. Pour le moment, rien ne les relie, vous l'entendrez. Nous ferons le point aussi sur la contamination plus globale à travers le monde. 40 pays sont touchés, et notamment la Corée du Nord, où le régime contraint un peu plus les habitants à s'éloigner les uns des autres. Dans cette édition également, nous reviendrons sur le scandale à l'Université Paris-Descartes et à son centre de don de corps. Un charnier y a été découvert ces derniers mois. On apprend que l'établissement a été cambriolé. Les autorités sanitaires françaises recherchent donc activement les causes de la contamination de certaines personnes au coronavirus. Hier, nous avons appris la mort d'un patient à Paris, un homme de 60 ans, enseignant à Creil, dans l'Oise. Et c'est aussi de Creil que vient un autre patient, hospitalisé, lui, à Amiens. Il est âgé de 55 ans, il est dans un état préoccupant. On ne connaît pas encore l'éventuel lien entre ces deux hommes qui n'ont pas voyagé dans des pays à risque. Les épidémiologistes n'arrivent pas à comprendre comment ils ont pu tomber malades, Solène Lehen.
Contrairement aux autres cas en France, ces deux malades ne reviennent pas de Chine, de Singapour ou d'Italie ou n'ont pas été apparemment en contact avec un malade connu qui lui-même en revenait. Pour la première fois, les autorités ne trouvent donc pas de logique à leur contamination, ne parviennent pas à identifier le patient zéro qui leur a transmis le virus. En quoi est-ce problématique? Cela veut dire que ce patient zéro, c'est certainement un malade qui s'ignorait, quelqu'un qui avait très peu ou pas de symptômes, cela arrive. Donc un malade qui aurait pu contaminer ces deux hommes à la fois, ou même pire, deux malades, deux patients zéro qui s'ignoraient et qui auraient contaminé ces deux hommes séparément. Cela veut dire aussi que d'autres personnes de la région ont pu être infectées de la même façon. Et là, l'enquête sanitaire s'avère cruciale, car si on ne remonte pas rapidement jusqu'à la source, on ne pourra pas alors limiter la propagation du virus en mettant en observation tous les proches de ceux ou ces patients zéro. Cela pourrait signer le début d'une épidémie en France.
J'ajoute qu'au total, 18 personnes en France ont été contaminées par ce coronavirus. Sur le sol français, deux patients sont décédés. Pour les personnes mises à l'isolement par ailleurs, en cas de soupçon, elles ont la possibilité d'être indemnisées selon un décret paru au Journal officiel le 1er février dernier. Indemnisation donc, 100 jours de carence, précise le gouvernement. On apprend aussi que les carnavals de Nice et la fête du citron à Menton dans le sud-est ont été annulés. Pour ce qui est du reste du monde, l'épidémie s'étend encore. 40 pays au total sont touchés et le nombre de contaminés augmente davantage en dehors de la Chine en ce moment que dans le foyer de l'épidémie. Les voyages d'un pays à l'autre en sont la principale cause. En Corée du Nord, par exemple, pays voisin de la Chine, le régime a mis en place des mesures extraordinaires. Cela isole un peu plus les habitants, Élise Delève.
Selon les experts nord-coréens, la stratégie d'isolement est la meilleure pour protéger le pays. Les frontières avec la Russie et la Chine ont été fermées. Pékin est pourtant le principal partenaire économique du régime. Chaque jour, des dizaines de travailleurs et de marchandises passent normalement la frontière. À l'intérieur du pays, les haut-parleurs, qui hurlent d'habitude la propagande du régime, énoncent désormais des consignes d'hygiène et des messages comme celui-ci. Dîner ensemble, parler les uns aux autres, cela peut devenir le terrain principal de la propagation du coronavirus. Il est donc demandé à la population d'éviter de se rassembler dans les lieux publics et les restaurants. Les autorités font également du porte-à-porte pour vérifier l'état de santé des habitants. Toute personne soupçonnée d'être contaminée est soumise à une période d'isolement de 30 jours. Les mesures sont encore plus dures pour les étrangers. Depuis le début du mois, ils sont tous en quarantaine à domicile. Les diplomates doivent rester dans les ambassades, privés de courrier diplomatique. Ils ne reçoivent plus de médicaments ni de fournitures. Même si le régime ne l'admettra jamais, le pays n'a pas les infrastructures capables de répondre à une épidémie et pourrait faire face à un chaos sanitaire. Il est quasiment impossible de savoir le nombre de cas de Nord-Coréens infectés par le coronavirus, mais d'après le régime, il n'y en a aucun.
En Corée du Sud, en revanche, le gouvernement lui communique et recense déjà 1595 personnes contaminées. C'est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus derrière la Chine. Hier enfin, notons que le président Donald Trump insistait lui sur le fait qu'une large propagation du coronavirus aux États-Unis n'était pas inévitable. L'Arabie Saoudite, de son côté, a suspendu sur son territoire l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque. Ce virus perturbera aussi sans doute le sommet franco-italien qui est organisé aujourd'hui en Italie, à Naples. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Giuseppe Conte vont afficher l'entente retrouvée entre les deux pays. Pour Paris, il est important, je cite, d'être présent aux côtés des Italiens et de coopérer dans ce contexte difficile. C'est le premier sommet de ce type depuis plus de 2 ans. L'affaire avait été révélée par le magazine L'Express le 27 novembre dernier et elle ébranle toujours le monde médical. Des corps donnés à la science étaient conservés dans des charniers à l'université Paris-Descartes. Sans réponse satisfaisante depuis, les familles ont décidé de se réunir ce matin à partir de 11h devant le centre de dons qui a depuis fermé ses portes sur décision ministérielle. Une manifestation silencieuse est organisée pour dénoncer le mur de silence entretenu par l'université. Il faut dire que le centre était dans un état incroyable, Céline Autain.
Des cadavres décomposés, des membres grignotés par les souris dans des salles vétustes et des chambres froides en panne. L'université Paris-Descartes tait pendant des années les conditions de conservation des dépouilles, incapable même de répondre aux familles qui souhaitent connaître la date d'incinération du corps de leurs proches. Certains cadavres ne sont même pas utilisés à cause de leur état. Plusieurs alertes sont lancées à partir de 2004. Des médecins responsables du centre écrivent à la présidence de l'université. La chef du comité d'éthique démissionne à l'automne 2017. L'université avance alors son manque de moyens financiers mais vote un plan de réhabilitation de 6 ans. Pourtant, une chape de plomb continue de peser sur l'état du centre et sur ses activités, car les corps font l'objet d'un trafic. Les chirurgiens doivent payer pour y avoir accès et certaines dépouilles sont vendues à des entreprises privées comme des constructeurs automobiles pour leur crash test, toujours sans en informer les familles. Une enquête administrative est désormais en cours, ainsi qu'une enquête du pôle santé publique du parquet de Paris. Le centre de dons est fermé. 24 plaintes contre X sont déposées par les proches pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. L'université va bientôt rencontrer les familles, mais ce rendez-vous arrive trop tard, estime leur avocat Frédéric Douchez, pour briser les années de silence entretenues autour du centre de dons.
Un centre de dons qui a donc été fermé, mais c'est une information de l'Express et de la cellule investigation de Radio France. Mais le bâtiment a fait l'objet il y a quelques semaines d'un cambriolage. L'université a porté plainte, Élodie Guéguin.
L'intrusion a eu lieu de nuit au 5e étage de la fac, là où se trouvent l'administration et les chambres froides. Le ou les voleurs ont mis la main sur des cartons d'archives datant de ces 20 dernières années. Ils ont aussi pénétré le réseau informatique du centre du don des corps. Qu'ont-ils emporté? Ont-ils effacé des données compromettantes? La question se pose d'autant plus que la police est chargée d'une enquête très sensible pour atteinte à l'intégrité de cadavres. De nombreux documents et témoignages font état de corps en état de putréfaction, démembrés, entassés les uns sur les autres et rongés par les souris. Les enquêteurs avaient procédé à des constatations en décembre, mais ils avaient laissé derrière eux les archives du centre. Les familles espèrent que les investigations permettront quand même de déterminer qui, au sein de la prestigieuse université Paris-Descartes, savait dans quelles conditions étaient conservés ses corps.
C'était Élodie Guéguin pour France Culture. Comment être sûr que les détenus condamnés pour des affaires de terrorisme ne récidivent pas après leur sortie de prison? 2 sénateurs viennent de rédiger une proposition de loi qu'ils vont déposer dans les prochains jours. Ils veulent une mesure de suivi spécifique pour tous ces détenus. Ils demandent aussi un suivi socio-judiciaire qui pourrait être reconduit pendant 10 ans pour les personnes condamnées pour des délits, pendant 20 ans en cas de crime similaire à celui qui existe pour les délinquants sexuels. Les deux parlementaires, les Républicains, parlent de vide juridique qu'ils veulent combler, une manière de prévenir en amont. Écoutez à ce propos le sénateur Philippe Bas.
Vous savez, si certaines mesures dans l'état d'urgence ou ensuite dans la loi de sortie de l'état d'urgence ont été critiquées, c'est d'abord par le Sénat qui a voulu les rendre temporaires pour pouvoir les évaluer avant de les confirmé et pour permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Par exemple, la loi de sortie de l'état d'urgence, ce sont 4 mesures dont le Sénat avait exigé qu'elles soient prises pour 3 ans seulement pour vérifier qu'elles soient vraiment utiles et pour vérifier qu'elles soient bien constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a dit oui, elles sont constitutionnelles. Par ailleurs, elles sont utiles, ça c'est ce qu'a démontré le rapport de Marc-Philippe Daubresse, notre rapporteur. Tout est conçu pour effectivement qu'il y ait des garanties suffisante, la possibilité de l'intervention d'un juge, des conditions très précises, afin que le respect de l'état de droit soit assuré. Ça, c'est une exigence du Sénat. Nous voulons progresser dans l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais nous ne voulons pas baisser la garde en matière d'état de droit et de respect des libertés.
C'était le sénateur Philippe Bas avec Florence Sturm. Attention à la neige et au verglas sur le nord-est de la France. Aujourd'hui, du Pas-de-Calais à la Moselle en passant par l'Oise. Ailleurs, la pluie va tomber avec 3 degrés ce matin à Lille, 4 à Strasbourg et Lyon, 6 à Paris, 14 à Bayonne.